L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Mangombrou, petit village de la localité de Verviers, en province de Liège. Le jour s'est levé depuis quelques heures, pourtant, en plein cœur de l'été, les éléments se déchaînent sans mesure. Depuis la veille, il est tombé des pluies torrentielles. Tant et si bien que la situation semble être sur le point de basculer. Le bois de Jalet, qui abrite d'impressionnants étangs, est totalement engorgé. Les troncs se retrouvent recouverts par les eaux. Dans le village, la situation évolue vite. Le rue de Mangombrou est sur le point de déborder. Jean-Claude Crosset est un commerçant verviétois qui connaît parfaitement sa commune. Le traiteur vient d'enfiler son tablier. Rue de Jalet, le tonnerre de l'eau devient assourdissant et a déjà fait des dégâts. Son commerce se trouve au bord du ruisseau. Alors, l'homme profite d'une accalmie pour sortir prendre des photos qu'il compte envoyer séance tenante à son courtier. Ah, il les connaît, les assurances. Il faut payer vite, mais lorsqu'un sinistre est ouvert, il faut parfois attendre des années avant que les choses ne bougent. En contrebas, l'eau est si vive que le torrent aurait presque un effet hypnotisant sur notre homme qui s'avance d'un pas sans crier gare. Mais les pluies diluviennes ont fragilisé le sol. En un instant, la berge s'écroule. Jean-Claude Crosset tombe à l'eau et disparaît immédiatement, emporté par le courant. La tempête ne fait que commencer. Nous sommes le mercredi 14 juillet 2021. Il est 9h27 et c'est l'heure H de mon histoire. Alors que Jean-Claude Crosset se bat pour sa survie, au même moment, l'Institut Royal Météorologique, l'IRM, déclenche une alerte rouge pour la province de Liège. La situation est on ne peut plus critique. Le commerçant de Mangombrou ne peut rien faire. Il est totalement prisonnier de cette geôlière qui ne dit pas son nom. Il se retrouve embarqué dans une canalisation. L'air vient rapidement à lui manquer. Pire, il sent sa destinée basculer. Il va mourir là, noyé, dans ce corridor, aussi noir que la nuit. Aucune issue. Il n'y a que l'eau qui s'infiltre partout et le bruit assourdissant du courant qui ne cesse de se renforcer à chaque seconde. Emporté sous la route et les maisons, il est impossible pour Jean-Claude Crosset d'alerter les riverains sur sa situation. Oh, de toute façon, peu de personnes sont dehors. La peur, déjà, guette les foyers. Il se passe quelque chose d'anormal, d'inhabituel. La scène se déroule en quelques secondes, mais pour l'homme, ce sont des heures qui semblent s'écouler. Très rapidement, ses os se gèlent. L'eau est loin d'être une compagne agréable. Déjà, elle emporte tout. En premier lieu, ses espoirs. Sans aucune visibilité, sans moyen de s'accrocher à une corniche, le commerçant est emmené vers un voyage sans retour. La peur panique qui s'empare de lui est bien légitime. Dans ce tunnel, dans le bruit et l'eau vive, froide, il ne voit rien d'autre que la mort qui vient le chercher. L'espace d'un instant, Jean-Claude, effrayé, perd foi en la vie. Ballotté dans tous les sens, l'homme ne bénéficie d'aucune poche d'air pour reprendre son souffle. Hagard, il perd le contrôle. Pas de doute. C'est le torrent, ici, qui commande. La canalisation qu'il a aspirée ne dure pas éternellement. Un peu plus de 60 mètres après le lieu de sa chute, le commerçant est aspiré hors du morbide tunnel. Le voilà dehors, porté par les eaux. Il peut respirer de nouveau, mais son calvaire est loin d'être terminé. Voilà que Jean-Claude tente de reprendre le contrôle et de nager. Mais la quantité d'eau absolument délirante joue contre lui. À bout de force, il croit être victime d'une hallucination lorsqu'il perçoit des voix au loin. Ici des cris, là-bas des mots bienveillants qui tentent de le guider. le courant fait son œuvre. Et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, va jouer en faveur de Jean-Claude Crosset. Son avancée est bientôt stoppée par des branchages et des arbres. Le visage abîmé, la vision troublée par le sang qui s'écoule, l'homme est totalement démuni, à la merci des éléments. C'est là qu'un héros inattendu va faire son apparition. Alerté par les cris des riverains qui ont vu la victime dépérir dans l'eau, un voisin, pompier professionnel, se lance à la rescousse du traiteur. Il s'appelle Renaud Petit et il prend son courage à deux mains. Il n'a pas 36 000 solutions pour venir en aide aux sinistrés. Il va falloir se jeter à l'eau. Hagard, Jean-Claude Crosset est incapable de se bouger seul. Dans cet état second, il perçoit bientôt la présence de son sauveteur, qui est parvenu à se hisser jusqu'à lui. Comme un mirage, soudain, une main traverse les branchages de sapin. Le commerçant n'a qu'à la saisir pour voir son cauchemar se terminer. Il est indemne. Ses blessures physiques sont pour le moins superficielles. Dans les rues de Mangombrou, le commerçant reviendra sur les lieux 3 mois après les événements.
Je me suis dit, il me reste quelques secondes. Quelques secondes pour trouver une issue.
On vous appelle comment ici ?
Le Miraculé. Je n'ai pas eu de choc directement après, un peu de confusion, hein, bien entendu. Ici, ça se décante. Un peu à l'image de l'eau qui se retire au fur et à mesure. Je n'en fais pas de cauchemar. Je ne m'estime pas traumatisé.
Parce que l'histoire est belle et se termine bien.
Parce qu'elle se termine bien. Heureusement pour moi. Bien d'autres personnes n'ont pas eu cette chance.
Nous sommes quelques jours plus tôt, le lundi 12 juillet 2021. Xavier Fetway, c'est le directeur du laboratoire de climatologie à l'Université de Liège. Le scientifique a la charge de coordonner l'ensemble des activités liées aux études du climat menées au sein des installations de la Cité Ardente. Ici, on collecte des données qu'on analyse sur le temps long, mais aussi sur le temps court. Comme tous les matins, le chercheur expérimenté attend les données fournies par l'IRM et d'autres instituts météorologiques afin d'en collecter les informations les plus importantes. Et aujourd'hui, il va tomber de sa chaise. À la lecture des éléments reçus, Fetways attrape son téléphone et appelle un de ses assistants. Dépêche-toi de venir voir ça, on a un problème. Le scientifique, qui déboule en orientant dans son bureau, comprend que la scène qui est en train de se jouer est franchement très inhabituelle. D'ordinaire, si mesuré, le Dirlo a le visage gangréné par l'inquiétude. Sur son écran défilent chiffres et scénarios, tous plus catastrophiques les uns que les autres. Écoute, tous nos modèles vont dans le même sens. Pas un seul qui parle d'une accalmie. Je te le dis, les Ardennes vont se retrouver sous les eaux. Il faut prendre les mesures adéquates ou on va assister à de terribles inondations. Le scientifique ne croit pas si bien dire. La catastrophe est en marche. Elle va frapper avec une intensité sans précédent. Le même jour. Le système européen de sensibilisation aux inondations, un institut chargé de surveiller les phénomènes climatiques de ce type sur le vieux continent, se réveille. Une notification concernant la situation du bassin de l'Ourthe est communiquée aux autorités et aux entreprises belges chargées des barrages et des installations hydrauliques. En conséquence, une demi-heure plus tard, Engie réagit à son tour. La firme décide de réduire le volume d'eau du barrage de Robertville dans les Hauts-de-Fagne. Le lac, d'une superficie de plus de 60 hectares et qui contient 8 millions de mètres cubes d'eau, est central pour la province de Liège. Dans le même temps, l'autre grand lac de barrage provincial, celui de Butchenbach, voit aussi son volume réduit, près de 2 fois plus grand que celui de Robertville. Ce géant constitue un point de vigilance accru. Les précipitations ne vont pas se faire attendre encore longtemps. Prévenu des données inquiétantes, l'IRM lance un avertissement de code jaune pour les journées du mardi 13 juillet et du mercredi 14. David Denoho, responsable du service scientifique prévision du temps à l'IRM, résume la situation en ces termes. Ce jour-là, plusieurs modèles prédisaient déjà des quantités énormes pour le 14 juillet, avec entre 100 et 150 millilitres attendus localement au sud du sillon Sambre-et-Meuse. C'était des données très claires pour les spécialistes. J'étais convaincu qu'il allait se passer quelque chose de grave. Mettre en place une alerte rouge? Impossible. Le protocole est clair à ce sujet. L'alerte maximale peut être déclenchée 12 heures avant la situation météo problématique, pas avant. Le temps joue contre les autorités et les organismes responsables. Pourtant, les choses ne vont plus bouger avant de longues heures. L'après-midi se passe sans qu'aucune décision supplémentaire ne soit prise. Le ciel de Belgique, lui, est garni de nuages noirs et menaçants. Mardi 13 juillet, 7h20. L'IRM fait savoir de manière officielle que l'alerte jaune est prolongée. Dans le même temps, le système européen de sensibilisation aux inondations sort de nouveau du bois et se montre plus alarmiste. L'Ourthe risque de déborder avec un pic attendu autour de la mi-journée le lendemain. Plus encore, l'organisme alerte sur la possibilité de crues dans les provinces de Liège et celles du Luxembourg. C'est tout le sud du royaume qui pourrait se retrouver sous les eaux en quelques heures. Le temps presse. 12h54. Le SPW reçoit la confirmation que les cours d'eau en aval des barrages risquent de déborder dans moins de 24 heures. Moins d'une heure plus tard, l'IRM décide de passer les provinces de Namur, Liège et Luxembourg en code orange. On parle alors de prévisions faisant état de 80 à 150 mm de pluie par mètre carré. Les avertissements concernant des crues et débordements possibles ne cessent d'affluer. Tous les voyants sont sur le point de virer au rouge. L'inquiétude est forte, d'autant plus que dans ces régions, des camps de vacances et des camps scouts ont toujours lieu durant le mois de juillet. Bien souvent, les enfants et leurs encadrants se retrouvent en pleine nature, non loin des ruisseaux ou des cours d'eau. Pour la seule province de Luxembourg, ce sont 31 000 jeunes qui sont regroupés dans différents campements. À 14h30, le 13 juillet, le centre régional de crise envoie à ses organisations la procédure concernant les conseils généraux intempéries. À ce stade, on ne parle pas d'évacuation. Le faudrait-il ? Des voix discordantes se font déjà entendre. C'est notamment le cas des autorités de la province de Namur qui prennent le taureau par les cornes sans plus attendre. Dès 16h et jusque tard dans la soirée, des dizaines de scouts sont évacués dans des zones sûres. C'est notamment le cas d'un camp de louveteaux installé près de Philippeville.
Au début, on avait mis une bâche pour voir si ça allait partir. Et puis, on avait même creusé des trucs pour que ça rentre. Et puis, en un coup, on est directement sorti. Et puis, on est revenu et l'eau nous arrivait aux genoux. Quasi.
Aux genoux.
Oui, il y en avait partout.
Il y a des tentes qui ont commencé à prendre l'eau, à être inondées. Du coup, on a essayé de mettre des loups dans différentes tentes pour qu'ils puissent avoir un endroit sec où dormir. Et petit à petit, toutes les tentes ont commencé à être inondées. Du coup, on a pris tous les sacs, on les a mis sur des lits de camp, comme ça, ils étaient en hauteur. Et petit à petit, on voyait que ça commençait à prendre trop d'ampleur.
Les signaux d'alerte se font de plus en plus pressants. À 21h, Hydromax, un organisme wallon, annonce avec certitude que l'épisode qui arrive sera pire que les crues de 1998, les dernières d'importance en date. 22h40. La direction du centre régional de crise de la province de Liège s'enquiert de la situation sur place. Tout est calme, enfin, pour le moment du moins. À tel point que l'IRM, qui avait envisagé d'enclencher un code rouge dans cette partie du pays, s'est ravisé. Les conditions ne sont pas réunies. Il aurait certainement mieux valu y réfléchir à deux fois. En quelques heures, alors que la nuit noire règne en maîtresse, les pluies intenses, diluviennes, plonge les terres liégeoises et luxembourgeoises dans la plus vive inquiétude. Passé minuit, c'est le branle-bas de combat. Les camps scouts de Jalais, non loin de Verviers, sont évacués. C'est parce que le niveau de l'Ourthe commence à sérieusement monter. Il est à peine 2h du matin lorsque la situation devient absolument critique le long du cours d'eau. Esneux, l'une des communes qui se retrouve en première ligne, déclenche immédiatement sa phase communale. C'est le premier niveau de gestion d'une situation d'urgence en Belgique. Elle est activée par le bourgmestre lorsque les conséquences d'un sinistre sont gérables avec les ressources locales. Les services de la localité, qu'ils soient policiers ou pompiers, sont mobilisés sans attendre. Mais à 3h30 du matin, la phase communale est finalement levée. Est-ce parce que la catastrophe annoncée s'annonce moins impitoyable que prévu ? rien ne semble aller en ce sens. À 6h, le matin du 14 juillet, c'est le long de la Vesdre, entre Trot, Frépont et Chauxfontaine, que la situation se dégrade à vitesse grand V. Ce sont plus de 90 communes, les services du gouverneur et la SWDE qui sont alertés de concert à 6h22. Le SPW prend la mesure de la situation et déclenche une alerte rouge inondation pour tout le bassin de la Vesdre. Cette accélération des plans d'urgence provoque des situations ubuesques à des endroits stratégiques. Peu après 8h du matin, les voies hydrauliques contactent le centre de crise. Le pont-barrage de Montsaint, en aval de Liège, est en pleine réfection. 4 de ses portes sur les 6 sont HS. Les eaux de la Meuse pourraient ne pas s'écouler correctement en cas de gros débit. Au même moment, le même centre de crise est alerté par ce qu'il se passe du côté de Theux. La commune de la province se retrouve soudainement inondée et informe de son passage en phase communale. Moins de 30 minutes plus tard, c'est au tour de Spa de connaître le même sort. Le centre-ville, inondé, est recouvert par 30 cm d'eau dès 9h du matin. Olivier Coll, présentateur de Vivacité, se trouvait sur place.
Bah écoutez, en rentrant ce matin tôt dans ma ville, aux alentours de 9h30, j'avais des appels téléphoniques de nombreux habitants qui me disaient « faut vraiment voir ce qui se passe au centre-ville ». Et effectivement, en voulant pénétrer dans la ville, c'était déjà impossible parce que la circulation de la Nationale 62 qui la traverse était devenue un fleuve pratiquement. On ne parle même plus de rivière. On ne parle plus du Wayé qui habituellement coule tranquillement sous les voûtes, derrière la place qui est juste derrière moi d'ailleurs. Il s'agissait véritablement d'eau brunâtre, comme vous le voyez, et qui avait dû se frayer un chemin là où c'était possible, tellement les quantités étaient importantes. La bonne nouvelle, c'est que comparé à tôt ce matin, le niveau est quand même un petit peu descendu. Mais il y a un bémol à porter là-dessus, c'est que par contre, les précipitations continuent sur Spa et on est copieusement arrosé pour le moment. Il faut savoir que la ville de Spa est une cuvette, c'est-à-dire qu'on a vraiment toutes des collines sur les quatre coins de la ville qui versent vers la ville. Et donc tous les petits cours d'eau qui sont les affluents du Wayé amènent autant de mètres cubes d'eau. Et vous l'avez dit, la situation est aussi périlleuse du côté du barrage du lac de Warfa qui est en amont de la ville. On espère en tout cas que derrière moi, au lieu d'avoir une rivière dans quelques heures, on pourra retrouver une circulation normale et que les riverains vont pouvoir commencer à pomper leurs caves qui sont évidemment pleines d'eau, vous le devinez.
Les éléments se déchaînent à une vitesse impressionnante. Devant le fait que plusieurs communes de la province ont déclenché leur phase communale, la gouverneure, faisant fonction à Liège, enclenche le plan provincial. Sur le terrain, on constate les premières pannes de courant localisées et des routes devenues impraticables. L'inquiétude grimpe d'un cran lorsque du côté de Trot et Theux, les éléments se déchaînent. Des camps scouts se trouvent toujours sur place et n'ont pas été évacués. 9h27, à Mangombrou, tout près de Verviers, Jean-Claude Crosset vient d'être sauvé de justesse. Dans le même temps, l'IRM passe la province de Liège en alerte rouge. La situation est sur le point d'échapper à tout contrôle, et ce alors que le pic n'est attendu qu'à la mi-journée. On craint le moment qui vient et l'importance des répercussions. Il est un peu plus de 10h, le mercredi 14 juillet 2021. Tandis que les alentours de Verviers connaissent des précipitations d'importance, la ville de Theux est sur le point de se noyer. La protection civile, dépêchée sur place, n'a qu'une mission. Évacuer les habitants et les préserver d'un destin funeste. La situation est sur le point de devenir on ne peut plus gravissime. Dans le cadre des procédures de sauvetage, la gouverneure faisant fonction à Liège demande à recevoir un appui de la police fédérale, via des drones. On lui répond que c'est impossible. La gouverneure revient à la charge, en demandant un hélicoptère aux mêmes interlocuteurs. Même fin de non recevoir. Les esprits s'échauffent et les vies des habitants en première ligne basculent dans l'horreur. Il n'est pas encore 11h et le nord de la province du Luxembourg passe en alerte rouge. La ville de Theux, au cœur des inondations, est totalement impuissante. Le mur de berge rompt. La caserne des pompiers est sous eau. En un rien de temps, 3 soldats du feu sont emportés par le courant. Démunis, les habitants n'ont plus qu'à compter sur la solidarité et à prendre leur mal en patience.
Les pompiers sont venus tantôt évacuer 3-4 personnes âgées avec la barque. Malheureusement, ils en ont oublié une. Et c'est mon fils, une demi-heure après, qui entendait crier. Et la vieille dame par la fenêtre, qui est allée la chercher avec un autre monsieur. Ils sont allés à deux chercher la dame.
Le problème, c'est que j'aimerais bien être rentrée chez moi. J'habite de l'autre côté. Et ben, c'est pas possible de traverser. Donc, j'ai mes deux filles qui m'attendent de l'autre côté. Je ne sais pas dans quel état est la maison. C'est impressionnant. Et les voitures, enfin tout. C'est du jamais vu, voilà, ça c'est sûr.
Moi j'ai un bâtiment rue de la Rogne ici, et je pense que vu la hauteur de l'eau, que tout ce qu'il y a dedans est foutu. Quoi.
Vous n'avez pas pu le vérifier?
Non, on ne sait pas y accéder, il y a 1,50 m d'eau, c'est pas possible. Mais c'est la première fois que je vois ça.
La gouverneure faisant fonction sans aide du fédéral décide de contacter la défense qui s'engage à lui envoyer une quinzaine de bateaux en déant les 2 heures. L'Ourthe et la Vesdre débordent. Elles déferlent sur les villes et les villages. Dans bien des zones touchées, c'est le même constat. L'eau monte trop vite pour réagir. Par endroits, elle grimpe de près d'1 mètre dans les habitations en moins de 30 minutes. Le temps presse. Et le manque de décision va provoquer des catastrophes. À midi, l'entité de trop, qui devait être évacuée, ne peut plus l'être. Elle est cernée, assiégée par les eaux meurtrières. À la mi-journée, c'est la situation des barrages qui mérite d'être analysée, à Eupen notamment, où l'évacuation de plusieurs zones devient urgente. Le centre de crise le demande, mais ne peut pas prendre la décision. Il n'en a pas les compétences. Il faudra attendre 15h30 pour que les habitants d'Eupen et des communes environnantes soient évacués de manière préventive. Les prévisions sont claires. Si on ne fait rien, le barrage va déborder dans la nuit. Le long de l'Ourthe, la situation est aussi catastrophique. À Ferrières, la protection civile qui cherche à accéder à une partie de la commune se retrouve bloquée. On évacue à la hâte le domaine de Palogne, in extremis. L'ordre d'évacuer les zones rouges et oranges ne tarde pas à être donné. Mais de nombreuses questions restent en suspens, notamment au sujet de la commune de Verviers. Les autorités font alors confiance aux organismes compétents qui annoncent que la quantité d'eau va être absorbée. Dans le même temps, Trot et d'autres localités sont coupées du monde. Personne ne peut secourir les sinistrés concernés. Il est 15h lorsque la phase provinciale est enclenchée au Luxembourg, démunie face à la situation. Le pic est passé. Pourtant, les choses semblent s'aggraver. Dans l'après-midi du 14 juillet, aucun front n'est stabilisé. Et les événements vont aller de mal en pis. La vallée de la Vesdre est submergée. Il est impossible de venir en aide aux sinistrés qui s'y trouvent. La gouverneure ne peut toujours pas disposer d'hélicoptères pour obtenir une vision d'ensemble. Sollicité, le Luxembourg envoie des ressources en province de Liège, qui arrivent à 21h. Décision est prise de mener à bien un délestage du barrage d'Eupen, sans pour autant ordonner l'évacuation de Verviers. Bientôt, le sort s'acharne. À 22h43, le barrage ne peut plus stocker d'eau. Il va devoir évacuer ce qui entre dans le lac. Là, tout va très vite. Dans la nuit, Verviers est informé que la Vesdre va grimper d'un peu moins 1 mètre, le tout en quelques minutes. 2 vagues successives, à 2h30, puis à 3h30, frappent sans ménagement la localité. Alors que l'aube se lève, la situation sur place est on ne peut plus critique. Les forces de secours peinent à intervenir face à la hauteur de l'eau. Dans le même temps, à 6h, Pépinster est frappé par une forte montée du courant qui emporte des façades et des bâtiments tout entiers. La violence du choc est indicible, comme le raconte Daniela Prepeliuk en direct de Pépinster.
L'image qui a été la plus frappante, c'est vraiment le regard des habitants, le désarroi dans les yeux de ces habitants quand on est arrivé. Ils sont sous le choc et nous également avec l'équipe, avec Michel Téchier, on est arrivé sur place et les habitants sont venus spontanément nous parler, nous expliquer leur nuit de galère, leur nuit d'enfer. Alors, ils me disaient qu'au départ, lorsque la Vesdre a débordé hier soir, ils ont essayé de rester dans leur maison, ils ont essayé par tous les moyens d'empêcher cette Vesdre de rentrer dans leur maison. Mais vous vous en doutez, la force, la puissance du débit de la Vesdre fenêtre les a empêchés. Donc finalement, ils ont dû se résoudre à quitter leur habitation. Vous le voyez, c'est une ville qui est complètement dévastée, sinistrée, que nous retrouvons ici. C'est vraiment choquant pour nous également. Vous le voyez, hein, toutes les voitures sont complètement sous eau. Et autre image marquante, ce sont les débris que vous voyez derrière moi. Ça prouve à quel point la Vesdre arrive avec une vitesse extrêmement importante. Et c'est ce qui aussi complique le travail des pompiers, de la protection civile. Ici où nous nous trouvons, on a vu des habitants aussi aux fenêtres qui malheureusement n'ont pas encore pu être évacués car c'est extrêmement compliqué pour les pompiers. Donc pour le moment, ce qu'on demande à la population, c'est de rester à l'intérieur de la maison, à l'étage, et de continuer à rester extrêmement prudent.
Alors que le pic des intempéries devait intervenir la veille, le jeudi 15 juillet à la mi-journée, les habitants de Liège, qui vivent en bord de Meuse, doivent quitter leur maison.
Vous évacuez ?
Oui, on évacue en fait pour un ami.
Vous allez sur les hauteurs, vous allez où?
Oui, on va vers Liège, en fait, c'est là où j'habite. Et donc voilà, avec sa petite fille, parce qu'il ne peut pas laisser sa petite fille ici, elle a à peine 13 ans. Et donc voilà, on va sur l'assurance. Quoi.
Vous allez évacuer ou vous attendez?
Non, on va rester ici, c'est notre maison. Donc voilà, on a l'étage pour y rester. Et il n'y a pas grand-chose dans la cave.
En fait, on nous a juste dit, la police est passée en disant que sur un recours du bourgmestre, on ne pouvait plus quitter les lieux et qu'il fallait monter au premier étage, prendre de quoi manger, de quoi boire. Mais je ne sais pas monter l'étage, donc je ne sais pas. J'ai peur.
On évacue quelques heures plus tard la gare des Guillemins. La province liégeoise est la plus touchée par la crise, qui va s'estomper d'heure en heure à compter du jeudi soir. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'un premier vol en hélicoptère est opéré, 48 heures après le début des épisodes. Il va sans dire que les premiers bilans sont des plus alarmants. Le 16 juillet au matin, on annonce 11 morts et 4 disparus en province de Liège. Le soir venu, les chiffres deviennent exponentiels. 18 décès, une centaine de disparus. Il faudra attendre le samedi après-midi pour que les derniers sinistrés ayant besoin de l'intervention des secours soient pris en charge de manière effective. C'est toute la Belgique qui doit encaisser un choc inouï. Dans son histoire moderne, le royaume n'a que peu connu un traumatisme d'une telle ampleur. D'emblée, de très nombreuses questions se posent. L'importance de cet épisode climatique est-elle singulière ou la situation pourrait-elle se répéter? Chesnay, localité de la ville de Liège, juillet 2022. Voilà un an que l'horreur s'est déversée avec violence, renversant bien des destinées. Aujourd'hui, dans le cadre des commémorations de la tragédie, nombre de responsables politiques sont attendus. Le Premier ministre Alexander De Croo et des membres du gouvernement, la famille royale, aucun ne manque à l'appel. Ils ne sont pas seuls. Une foule compacte s'est massée le long du parcours des véhicules officiels. Les stigmates sont encore présents sur bien des bâtiments. Le silence est pesant, lourd. Lors de l'arrivée des voitures ministérielles, de timides et imperceptibles applaudissements se font entendre. Et puis, il y a les écriteaux levés bien haut qui visent à interpeller les pouvoirs publics. Celui-ci est en première ligne. Hommage à toutes les personnes décédées, celles emportées par les flots, celles mortes d'épuisement, de maladie, de suicide, celles abandonnées par l'État et les assurances. Nous n'oublierons pas. Alors que les premiers politiques descendent de voiture, la porteuse d'un écriteau s'écrie « Vous devriez avoir honte d'avoir abandonné les sinistrés !» Personne ne renchérit, mais la plupart n'en pensent pas moins. Le couple royal est mieux accueilli. La présence des souverains redonne du baume au cœur à la plupart des locaux. Il n'empêche, le constat est aussi limpide qu'amer. Un an après la terreur vécue, bien des destinées brisées ne pourront jamais être reconstruites. Face à l'immobilisme, qu'il soit de la responsabilité des politiques ou des assureurs, des victimes ont continué de plonger dans l'horreur. Les sinistrés de concert dénoncent l'invisibilisation des souffrances. Les beaux discours, l'attente, le pupitre immaculé, tout y est, tout. Enfin, pas tout à fait, quand même. Il manque des réponses claires que les malheureux attendent depuis 12 mois. À la sortie de la cérémonie à laquelle ils n'ont pas été conviés, certains riverains interpellent Elio Di Rupo.
Il n'y en a jamais eu. Malheureux, hein. Vive les élections. Ne cassez pas, on va bien voter. Tout le monde réfléchisse. Ne cassez Tenus à l'écart de la cérémonie d'hommage, ces sinistrés sont fâchés et déçus.
On aurait voulu, nous aussi, participer à la cérémonie, rendre hommage aux ces personnes qui sont parties et commémorer. Donc, on s'est pris en main, on a créé chez Neva 2 commémoration et on fait la fête samedi.
Scandaleux parce qu'il y a encore énormément de personnes qui sont vraiment très très loin dans les ennuis. Et M. Di Rupo a beau dire que 90% des personnes ont trouvé des solutions, c'est complètement faux. Et voilà, je trouve que d'avoir enlever les barrières nadar, que les gens puissent participer à cette commémoration, c'était la moindre des choses. Ça leur a apporté un petit peu de baume au cœur.
Après le temps des premiers secours, vient celui de la prise en charge des victimes. Et là encore, bien des dents grincent. À Pépinster comme ailleurs, plusieurs mois après le drame, les sinistrés sont pour la plupart démunis face aux conséquences subies. Abandon, c'est le mot qui résonne dans bien des foyers meurtris. Comme un symbole, les ponts qui enjambent la Vesdre à Verviers ne sont pas du tout sécurisés, près d'un an après la tragédie. Plus encore. Les maisons qui sont devenues des poudrières sur le point d'exploser doivent passer sous le crible des assurances, bien souvent impitoyables. Elles interviennent en deçà du montant total des travaux et les sinistrés se retrouvent sur la paille. Mais c'est pas tout. Lorsque vient le temps de faire réparer les dégâts, certains entrepreneurs profitent de la détresse des malheureux. Rien n'est simple. Et les semaines passant, tout se complique davantage. Les dossiers d'escroquerie sont menés courante. Malheureusement, les victimes sont trop seules. Les profiteurs sont légion lorsque s'installe la misère, et les inondations ne font pas exception à cette règle. Plaintes, actions en justice, le malheur appelle le malheur. Outre les entreprises qui n'hésitent pas à faire faux bond et à truander, il faut ajouter le cynisme et l'opportunisme des propriétaires. Dans les régions touchées, beaucoup de personnes doivent se reloger de manière provisoire. La loi de l'offre et de la demande ne prend que rarement en compte le poids de la détresse humaine. Les loyers flambent, les familles basculent dans la précarité. Il n'est pas rare de voir des victimes retrouver la douceur de leur foyer après un an de travaux, si ce n'est plus. Et puis, il y a celles et ceux qui ont encore moins de chance. Certains bâtiments, certains quartiers sont si endommagés qu'il n'existe aucune autre option que celle d'exproprier et de raser. C'est notamment le cas à Pépinster.
Donc on me dit que la démolition va être à mes frais, ce qui n'est pas tout à fait normal. C'est la province qui doit la prendre, la commune, je ne sais pas, mais ce n'est pas à moi. Plus de ça, ils vont décider d'un démolisseur. Ils ont mis un marché. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Si je dois payer, je prends un démolisseur qui m'intéresse, qui ne va pas m'arracher tout mon garage et mes affaires dedans.
Toutes les maisons ici, elles vont être démolies. Et donc la mienne se trouve donc le toit noir là au bout. Et celle-là, par contre, elle est à peine à 1 mètre aussi de celle-ci. Donc elle ne sera toujours pas démolie, quoi. Mais comme on m'a dit, si ça se met, elle cédera dû aux vibrations de démolition des autres maisons à côté d'elle, quoi.
Cette maison, vous souhaitez la garder ou vous souhaitez qu'elle soit démolie ?
Je pense que le mieux, c'est qu'elle soit démolie, puisque laisser deux maisons d'un côté d'un quartier, ça n'a pas de sens, avec toutes les craintes, puisque si nos maisons sont les seules qui restent debout dans le quartier, ce seront également les premières accessibles par la Vesdre. Et ça, c'est invivable.
Au traumatisme des aléas climatiques s'ajoute l'horreur morale de tout perdre, une deuxième fois. Terrible pour beaucoup de ces gens, les nouvelles directives de la région Wallonne prévoient de mettre à terre parfois des maisons déjà rénovées après la catastrophe. À Verviers, par exemple, des maisons sélectionnées sont considérées comme nuisibles. Le but ? Empêcher un tel drame de se reproduire. On imagine aisément l'ampleur du traumatisme, comme en témoignent les réactions des habitants d'Anzival, qui assistent à des démolitions 3 ans après les faits.
J'ai des petits frissons, ça fait bizarre. Déjà, l'école que j'ai grandi à l'école maternelle, plus l'école primaire, ça m'a fait un petit choc quand même, quoi. Plus revoir ici des maisons qu'on va démolir, des amis d'enfance qu'on démolit, ça fait vraiment bizarre.
Ce serait mieux avoir les maisons, mais on n'a pas le choix, hein. Parce que ça reviendra à l'eau, hein. Ça, il faut que ça continue. On refait un nouveau café là, on refait une nouvelle école. Ouais, ce sera bien. Hein.
Les inondations ne les oubliera pas. Moi, j'avais 3,50 m d'eau à mes pieds. Là, j'habite au Sgo, heureusement. Non, non, ça n'oubliera pas ça, non.
Derrière les chiffres, il ne faut pas oublier ce qui compte vraiment. Ces tragédies sont avant tout humaines. Les sinistrés se sentent incompris, à part dans un monde qui leur semble cruel, injuste. Fort heureusement, les victimes ont pu compter dès les premières heures sur un élan de solidarité bien réel. Il se ressent avec des actes de bienfaisance isolés, spontanés ou impulsés par des dizaines d'associations qui se mobilisent avec une vigueur admirable. L'intervention étatique ne suffit pas toujours. Il faut plus, sur le long terme, pour accompagner, aider, soulager. Sans l'intervention de très nombreux bénévoles et du milieu associatif, cela n'aurait pas été possible. La région, les communes, toutes cherchent à agir à la suite de la tragédie, sans pour autant pouvoir, c'est le cas de le dire, sortir la tête de l'eau. C'est, entre autres, parce que les moyens nécessaires sont colossaux. Les manques et les injustices ne sont pas nés le 14 juillet 2021, mais ils ont été exacerbés par la situation. Face à cette souffrance qui perdure, une question hante tous les esprits. Le drame aurait-il pu être évité? Et si oui, est-il possible d'identifier un ou des responsables? Bien, disons-le d'emblée, il est tout à fait illusoire d'identifier une cause et un coupable pour expliquer l'horreur traversée par une bonne partie du royaume. Tout simplement parce que le phénomène est le fruit de nombreuses réactions en chaîne. Premièrement, les équipes du barrage de Penne sont souvent pointées du doigt. Certainement à raison, notamment pour avoir relâché les eaux contenues dans ces conditions. Mais cela n'explique pas tout. D'autant que des affluents avaient déjà débordé. En cause, l'abondance d'épicéas sur les plateaux des Hauts-de-Fagne, leur exploitation et le drainage qui y est associé. C'est aussi cela qui explique que l'eau n'ait pas pu être conservée sur les hauteurs. On estime que près de 50% du volume total déversé du côté de la Vesdre dépend de ce facteur. Depuis la catastrophe, les mesures ont été prises. Des tourbières supplémentaires ont été recréées dans les zones où retenir l'eau est un enjeu déterminant. Ce sont près de 1000 mares qui doivent servir d'éponge au cœur des Hauts-de-Fagne. Suffisant ? Difficile à affirmer. Plus encore que l'inaction, que le manque de préparation ou que les erreurs humaines, les principaux coupables sont connus. Ils se nomment aménagement du territoire, bien trop souvent problématique, et changement climatique, qui, de plus en plus, pèse sur nos régions. Depuis 2022, une nouvelle politique de gestion territoriale est en cours, notamment du côté de la Vesdre. Ce n'est pas trop tôt. La bétonisation massive, l'agriculture intensive sont au cœur de cette remise en question. Vergers et haies doivent pouvoir redevenir des catalyseurs, des gardiens de l'eau, à contrario, des prairies immenses prévues pour l'élevage. Là encore, une discussion avec les agriculteurs paraît inévitable, souhaitable. Le bilan définitif fait front dans le dos. Outre les blessés, 41 personnes ont perdu la vie et des dizaines de milliers d'autres sont sinistrées. Aux vies humaines broyées s'ajoute l'impact écologique du phénomène. Malgré toute la bonne volonté, impossible d'évacuer tous les déchets charriés par les eaux, parfois sur des dizaines de kilomètres. Et puis, il y a le poids économique. De Spa à Pépinster, de Verviers à Trot, nombreuses sont les communes qui ont connu des difficultés financières importantes à la suite des épisodes de juillet 21. Quoi qu'il en soit, il nous est impossible, près de 5 ans après, d'évoquer cet événement comme un chapitre clos de notre histoire. Il est à conjuguer au présent, tant les enjeux sont encore importants. C'est d'autant plus vrai que plusieurs enquêtes sont encore en cours, afin de déterminer des responsabilités éventuelles. Et plus encore, parce qu'il est nécessaire pour l'État de préparer l'avenir. Le dérèglement climatique, l'impact de l'homme sur la nature, les inégalités nous obligent à nous adapter, qu'on le veuille ou non. Et à apprendre des crises pour mieux préparer demain. La Belgique est-elle mieux armée qu'en 2021 pour faire face à une nouvelle vague d'inondations? Rien n'est moins sûr. Voilà pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume d'Antoine Charpagne et à la collaboration des équipes de LDV Productions.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.